Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Après une semaine de consultations à Matignon sur le futur de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Édouard Philippe, sur le terrain, visite surprise en Loire-Atlantique ce matin. Compte rendu d'Ariane Grissel au début de ce journal et témoignage ensuite de Johanna Roland, la maire de Nantes, favorable au projet qui a pu s'entretenir avec le Premier ministre. Les syndicats de gardiens de prison demandent le départ du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Ils ont été reçus ce matin, place Vendôme, deux jours après l'agression de plusieurs d'entre eux par un détenu djihadiste. À l'étranger, l'Iran accuse les États-Unis de saboter l'accord sur le nucléaire au lendemain de l'ultimatum fixé par Donald Trump aux Européens pour renégocier cet accord. Précision à suivre de Siavosh Ghazi. Et puis à 12h40, votre rendez-vous avec la bulle économique et Marie Viennot. Le rendez-vous avait été soigneusement caché, sans doute pour éviter toute forme de contestation. Édouard Philippe est allé à Notre-Dame-des-Landes tôt ce matin. Le Premier ministre se prononcera d'ici à la fin du mois sur l'opportunité ou non d'un nouvel aéroport à Nantes, projet vieux d'une cinquantaine d'années, controversé pour sa zone d'implantation sur un patrimoine naturel. Édouard Philippe a passé la semaine à consulter à Matignon sur ce projet. Il s'agissait ce matin de sentir, de voir et d'écouter Ariane Grissel.
Le chef de gouvernement l'a redit en sortant de la mairie de Nantes. C'est très important de beaucoup écouter avant de prendre une décision, mais une fois qu'on a beaucoup écouté, c'est bien aussi de voir. Donc je voulais venir ici ce matin. Édouard Philippe est d'abord allé à Notre-Dame-des-Landes où il a rencontré le maire Jean-Paul Naud, opposé à ce chantier, puis direction Nantes pour discuter avec la maire Johanna Roland, favorable, elle, à un nouvel aéroport. Impossible de savoir ce qu'ils se sont dit. Chacun pourra interpréter comme il veut les propos d'Édouard Philippe à la sortie. Le Premier ministre affirme avoir eu avec l'élu un bon échange, très direct et très courtois aussi, mais très direct. Le rapport des trois médiateurs remis à Matignon dit que les deux projets sont raisonnablement envisageables, nouvel aéroport ou agrandissement de l'actuel. Édouard Philippe a d'ailleurs continué son déplacement par une visite à l'aéroport de Nantes-Atlantique.
Précision signée Ariane Grissel. Édouard Philippe qui s'est donc entretenu avec la maire PS de Nantes, Johanna Roland, qui est favorable au projet d'aéroport. Voilà ce qu'elle a ressenti à l'issue de cet entretien avec le Premier ministre.
Il m'a redit très sérieusement que sa décision n'était pas prise et que c'est la raison pour laquelle il était sur le terrain, que c'est la raison pour laquelle il voulait à nouveau avoir cet échange.
C'est la première fois qu'Édouard Philippe se rendait à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous avez perçu quand même s'il penchait d'un côté ou de l'autre ou pas du tout ?
Je crois d'abord que cette décision, elle est difficile. Elle est difficile parce que, en réalité, le risque, ce serait celui de ne rien décider du tout. Et je pense que le Premier ministre le sait. Si le projet d'aéroport est abandonné et qu'il y avait cette hypothèse de réaménager Nantes-Atlantique, en réalité, il ne se passerait rien dans ce quinquennat. Pour deux raisons. D'abord, toutes les étapes réglementaires qui seraient à nouveau à franchir, enquête publique, etc. Mais parce que, bien sûr, il y aurait des contestations, comme il y en a à Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi les riverains de ce territoire, eux, ne réagiraient pas, par exemple ? Et ce risque de la non-décision, je crois qu'il est problématique pour le gouvernement.
La maire de Nantes, Johanna Roland, avec Olivia Ferrandi. Les surveillants de prison ont été reçus ce matin par le cabinet de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Deux syndicats de gardiens d'établissements pénitentiaires appellent au blocage des prisons lundi prochain après l'agression de trois surveillants par un détenu djihadiste. C'était jeudi dernier à la maison d'arrêt de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Les syndicats demandent la démission du directeur de la prison et un renforcement des moyens pour faire face à la surpopulation carcérale. Les précisions de Samuel Gauthier, il est le secrétaire CGT des surveillants de prison pour la région Bretagne.
Dans toutes les maisons d'arrêt, où il y a une surpopulation quand même plus que galopante, c'est là où le bas blesse, où les conditions de travail des personnels sont plus difficiles. À partir du moment où vous ouvrez une cellule et que vous avez deux, voire trois détenus en face de vous et qu'il y a des tensions, ou en tout cas il y a un désaccord, c'est là que les incidents arrivent. Et malheureusement, heureusement que c'est pas tout le monde, mais les détenus s'en prennent, en tout cas physiquement, aux agents dès lors que la réponse ne satisfait pas. Des fois, c'est pour des broutilles, mais bien souvent, il n'y a plus de communication, de dialogue. C'est les actes violents, ça passe par des coups, quoi.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se rendra mardi prochain au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Malgré les rappels successifs de boîtes de lait infantile contaminées sur le site Lactalis de Cran, en Mayenne, 66 pays, dont 12 de l'Union européenne, ont commercialisé ces produits. C'est ce qu'on apprend dans une étude qui vient d'être publiée. Un cas de salmonellose a été détecté en Espagne chez un bébé et un autre cas est toujours soupçonné en Grèce. En ce qui concerne la France, 37 enfants âgés de 2 semaines à 9 mois ont consommé du lait contaminé. Tous sont néanmoins récupérés après une période d'hospitalisation. Comment sortir de la crise en Tunisie? Même si le mois de janvier est toujours une période de mobilisation sociale dans le pays, la semaine qui vient de s'écouler a été émaillée de manifestations souvent violentes. Le contexte est particulièrement tendu cette année à cause de la hausse des prix. Aujourd'hui, le président Béji Caïd Essebsi rencontre à Tunis les partis au pouvoir, les syndicats et le patronat. Tunis, où la population est partagée sur les manifestations de cette semaine. Yann Galik.
C'est un début d'année difficile pour Rachid Benmouka. Ce commerçant tient un magasin de tissus dans le centre-ville de Tunis. Mais aujourd'hui, les clients se font rares, dit-il, à cause de la hausse des prix, mais aussi des manifestations émaillées de violence.
Nous voulons la stabilité pour que l'activité commerciale reprenne et pour que le pays, l'économie reprenne, que la situation soit apaisée.
Rachid est un militant du mouvement islamiste Ennahda qui fait partie du gouvernement de coalition. Il reproche à la gauche tunisienne de semer le trouble et à certains responsables politiques d'avoir payé des casseurs, des affirmations qui ont été relayées par le ministère de l'Intérieur.
Ils peuvent manifester. Nous sommes pour la manifestation libre, pacifique. Mais ce n'est pas correct de donner de l'argent pour pousser les gens à manifester ou pour détruire les établissements publics. Ça, ce n'est pas honnête et ça ne sert pas la Tunisie.
Cette semaine, la police a arrêté près de 800 personnes, dont plusieurs militants de gauche, qui accusent le gouvernement de vouloir discréditer le mouvement de contestation.
Le reportage de notre envoyé spécial à Tunis, Yann Galik. Aux États-Unis, Donald Trump a finalement levé une nouvelle fois les sanctions économiques qui visent l'Iran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, mais il fixe un ultime délai de 120 jours à ses partenaires pour en renégocier les clauses. L'accord souffre de terribles défauts, selon le président américain. Siavoj Ghazi, vous êtes à Téhéran et vous nous expliquez comment l'Iran a réagi à cet ultimatum.
Après un tweet du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, qui a accusé Donald Trump de chercher à saboter l'accord nucléaire, le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué qu'il n'était pas question de renégocier cet accord, mais aussi de le lier à d'autres questions, sous-entendu le programme balistique du pays. En effet, l'ultimatum du président américain a été très clair. Il a demandé aux pays européens de coopérer avec les États-Unis pour durcir l'accord nucléaire, sinon il se retirera de cet accord. Donald Trump veut des restrictions permanentes et non seulement de 10 ans sur le programme nucléaire de l'Iran, en particulier sur l'enrichissement d'uranium, mais aussi contre le programme balistique du pays. Pour Téhéran, la menace est inacceptable. Des responsables iraniens ont affirmé ces dernières semaines qu'en cas de retrait des États-Unis de l'accord nucléaire et le retour des sanctions américaines, l'Iran allait prendre des mesures de représailles, notamment limiter sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Européens qui ont fait bloc pour défendre l'accord nucléaire sont mis devant un choix difficile par le président américain. Ils ont en effet 120 jours avant la nouvelle échéance fixée par le président Trump.
Correspondance à Téhéran de Siavoj Ghazi, les États-Unis qui ont par ailleurs imposé hier des sanctions contre 14 entités et personnalités iraniennes, dont le chef de l'appareil judiciaire du pays. Donald Trump est en excellente santé, c'est le constat du médecin officiel de la Maison-Blanche. Le milliardaire vient de passer son premier bilan médical en tant que chef de l'État, un examen qui intervient alors que le feu et la fureur, le livre événement du journaliste américain Michael Wolff, décrit un Trump enfantin et souvent confus. Le bilan médical de la nuit dernière ne comprend toutefois pas d'analyse psychiatrique. Le président américain, dont les insultes aux États africains et à Haïti, qualifiés de pays de merde jeudi dernier, continue de faire réagir partout dans le monde. 54 pays africains réclament des excuses. L'Organisation internationale de la francophonie juge indigne et offensant ses propos, tout comme Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, pour qui Trump est un personnage humiliant. Il est 12h40 sur France Culture. La bulle économique se fait l'écho de la bonne conjoncture mondiale cette semaine. Reprise, es-tu vraiment là?
La bulle économique Marie Viennot.
Bonjour. En ce début d'année, la petite musique que vous entendez peut-être comme moi, c'est « ça y est, ça repart, ça va mieux ». Mais qu'en est-il vraiment et comment savoir? Pour dire que ça va mieux aujourd'hui, et mieux encore demain, on s'appuie généralement sur les tendances macroéconomiques et notamment les prévisions de croissance. Or, pour 2018, c'est vrai, elles sont revues à la hausse et c'est une tendance générale. La Banque de France a cette semaine relevé sa prévision de croissance du PIB pour notre pays. Ce devrait être 1,9% au lieu d'1,8%. Dans un rapport publié aussi cette semaine, la Banque mondiale explique que pour la première fois depuis la crise financière, toutes les régions du monde sont en croissance. L'investissement, les échanges mondiaux, la production de biens et services, tout repart à la hausse. Pour une fois même, l'Europe ne fait pas exception.
La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or.
L'âge d'or, on n'y nageait déjà pas en 1934 quand cette chanson est sortie, et l'on n'y nage toujours pas. Dans son rapport intitulé « Reprise généralisée, mais pour combien de temps ?», la Banque mondiale cite Martin Scorsese dans son préambule. Le cinéma, c'est une question de cadre, dit-il, ce qui est dedans, ce qui n'y est pas. La croissance, c'est la même chose, nous dit la Banque mondiale. Dans le cadre, il y a le chiffre de progression du produit intérieur brut, tant de pourcents, et en dehors du cadre, il y a les composantes de ce chiffre. Rappelons que le PIB est la somme de tous les biens et services produits dans une zone géographique donnée. Pour cette production, il faut du travail, du capital humain et des machines, des bureaux, des usines, des ordinateurs, des logiciels, du capital physique. Le PIB augmente si capital humain et physique font de même, mais cela dépend aussi de la productivité. Si autant d'humains produisent plus de biens, c'est que la productivité est en hausse et au final, le PIB est tiré aussi vers le haut. La productivité, c'est cette troisième composante qui est hors cadre, celle dont on vous parle le moins. Or, que se passe-t-il de ce côté-là? Eh bien, ça ne va pas fort. La productivité des facteurs globaux, Total Productivity Factor en anglais, TPF, augmente moins qu'auparavant. 1% par an entre 2000 et 2007, 0,3% entre 2011 et 2016 dans les économies avancées. Mais dans les pays émergents, la tendance est la même. La Banque mondiale s'en inquiète. Un papier publié cette semaine, notamment par l'économiste en chef du FMI, s'en inquiète aussi. Est-ce parce que les mesures actuelles du PIB ne sont pas adaptées aux récentes innovations technologiques? Parce que les politiques des banques centrales pour contrecarrer la crise ont contribué à une mauvaise allocation du capital physique? Vous vous sentez peut-être peu concerné par ces questions académiques. Vous le serez plus par celles qui suivent. Car ce ralentissement de la productivité, on l'explique aussi comme le résultat d'un manque d'investissement dans le capital humain, un système de formation défaillant. Cela peut être aussi le résultat d'une politique qui pousse les chômeurs à accepter des emplois sous-qualifiés pour eux et donc moins productifs. Peut-être est-ce également le résultat d'une démotivation rampante liée à la précarité et à la montée des inégalités. Bien sûr, tous les économistes ne sont pas d'accord là-dessus et nos gouvernants ne lisent pas toujours toutes ces études. Mais au moins font-elles le lien entre comportements humains et données macroéconomiques. Alors, si on vous dit « en 2018, la reprise est là », ne dites pas non, c'est du vent, comme dans le Loup de Wall Street. Corrigez en précisant que cette reprise n'est peut-être pas durable vu l'évolution de la productivité totale des facteurs. Et à ce moment-là, vous pourrez asséner qu'il faut trouver d'autres raisons de dire
« Nous nageons dans le bonheur ».
Merci Marie Viennot. La bulle éco est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Il y en a un qui ne nage pas dans le bonheur, c'est Claude Lelouch. Il va être obligé de reculer de presque un an le tournage de son prochain film « Oui et non ». Le réalisateur d'un homme et d'une femme s'est fait voler le scénario au début du mois devant le siège de sa maison de production près des Champs-Élysées à Paris. Le cinéaste a porté plainte, il dit espérer un miracle pour que le voleur lui ramène aussi des dizaines de pages de notes également dérobées et qui sont le résumé de 50 ans d'observation. La météo de cet après-midi du samedi 13 janvier, la France coupée en deux sur une ligne Lille-Perpignan, c'est nuageux et pluvieux à l'ouest, c'est ciel chargé également en région parisienne, temps lumineux sur une grande moitié est, Auvergne-Rhône-Alpes et sur les bords de la Méditerranée, les températures 5 à Strasbourg, 6 à Lille, 7 à Bordeaux, 9 à Marseille et 12 à Menton. Journal préparé avec Brice Garcia, la technique c'était Jacques Hubert.